France Inter. Le 7-9.
7h50, Léa Salamé, votre invitée est députée européenne et ancienne garde des Sceaux, oui, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu.
Et vous l'avez déjà entendu. Bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Je ne veux pas faire partie d'une génération de somnambules qui oublie que l'Europe a connu la guerre. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, qui passait donc son premier grand oral devant les eurodéputés. Vous y étiez, vous, comme vous l'avez rappelé, comme eurodéputé. Comment vous avez trouvé son discours? Comment il a été reçu? Est-ce qu'il y a eu un effet Macron en Europe?
Je vous rappelle d'abord que quand il a souhaité, vous vous rappelez, Urbi et Torbi, il avait annoncé « je vais changer le mode de scrutin ». Il l'a changé pour les élections européennes, il l'a changé en France, parce que maintenant ça sera une liste nationale et plus par circonscription, ce que moi je regrette, parce que ça empêche un ancrage et une proximité avec les citoyens. Mais la deuxième chose, il avait dit « je voudrais changer, ça sera le nouveau monde, les listes transnationales ». Il l'a proposé au Parlement européen, largement battu. Donc son Europe...
Il ne peut pas la faire toute seule, la liste transnationale, si les autres pays n'acceptent pas.
Oui, mais il n'y a pas un autre pays qui a souhaité l'adouber sur ce sujet. Donc ça en dit long sur l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui.
Hier le discours.
Hier, ça a été un discours de grands principes. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était, je pense, que très bon oral de l'ENA, bonne récitation des traités, des grands principes. On ne peut
Vous
qu'y adhérer.
Vous êtes ironique.
Non, pas du tout. C'est bien. Il a bien rappelé les principes, la démocratie, la solidarité. C'est très bien. Mais comment on adapte ces principes à la réalité? C'est de ça qui manquait à ce discours. Alors, la seule proposition qui soit sortie, c'est de dire finançons les collectivités qui accueillent des migrants. Je pense que les élections auxquelles on a assisté en Pologne, en Hongrie et dans d'autres pays européens ou en Autriche, ça va renforcer effectivement le rejet de ce sentiment européen.
Il a dénoncé la montée de ces tentations autoritaires en Europe et dit qu'il y a une menace de guerre civile européenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a une menace de guerre civile inter-européenne ?
Je pense que les citoyens européens sont responsables et ils votent en âme et conscience. Je sais qu'il l'a dit très fortement, il a dit, vous savez, les patrons, les riches, ils n'ont pas besoin de président. Mais les autres, là, les benets que nous sommes, tous les autres citoyens, on doit être sous tutelle du président de la République.
C'est qui les benets, autres, c'est les pauvres.
La France qui bosse, les gens qui subissent les inégalités, qui subissent les fractures. Allez demander aux Toulousains et aux policiers toulousains qui sont en violence urbaine depuis 3 jours sans que personne n'en parle. Donc la France est fracturée, l'Europe est fracturée, les citoyens subissent des inégalités croissantes, criantes. Alors c'est vrai que peut-être que les gens qui sont bien lotis, dont il fait partie, cette caste très insérée n'a pas besoin
partie,
de président.
Rachida Dati.
Non mais moi je suis élue. Je ne parle pas de ma situation personnelle. Non mais au sens d'élu.
Parce que vous dites nous.
Non mais parce que nous on entend. C'est vrai que Monsieur Macron a dit qu'il n'entendait pas la colère gronder dans le pays. Nous on l'entend. Nous sommes élus. Donc on rencontre quand même les gens qui d'ailleurs expriment leur mécontentement, y compris après nous. C'est même pas partisan ce que je dis.
Ouais. À un an des élections européennes, on voit bien les lignes de force. La République en marche clairement pro-européen. Les Insoumis critiquent, le FN souverainiste. Mais chez vous, chez LR, c'est très confus. Pardonnez-moi. Entre une Virginie Calmels, numéro 2 du parti, qui est sur une ligne Juppé pro-européenne, et le numéro 3 du parti, Guillaume Pelletier, qui lui est eurosceptique pour pas dire souverainiste. Où est le parti? Où vous êtes-vous? Quelle ligne vous allez défendre
pour
LR?
Hier, on a eu un bureau politique, parce qu'on nous en avons toutes les semaines. On a eu un comité stratégique sur les européennes. Moi, je suis parlementaire européen maintenant depuis 2 mandats. Qu'est-ce qu'on veut? On veut effectivement, parce que tout le monde se gargarise de ça, une Europe qui protège, ça veut dire quoi? Vous voulez qu'on vous dise ce qu'on a pu faire avancer? On a pu faire avancer sur la lutte contre le terrorisme. Enjeu majeur. Nous, on veut que l'Europe s'occupe des enjeux majeurs. Lutte contre le terrorisme, lutte contre la criminalité organisée, effectivement favoriser les investissements, une politique de recherche.
D'accord, ça veut dire une ligne pro-européenne.
Y a des sujets. Vous croyez que, là, la loi sur l'asile et l'immigration, vous croyez qu'on peut faire sans l'Europe? Sur ce qui se passe à l'étranger, vous croyez qu'on peut faire sans l'Europe? Donc, c'est pas une ligne européenne. C'est-à-dire que c'est pas d'être pro ou contre. L'Europe est indispensable. Aujourd'hui, dans un monde qui est ouvert, qui est globalisé, où la mobilité est aisée, vous ne pouvez pas faire sans l'Europe. Et donc, notre parti n'a jamais dit qu'il était contre l'Europe. Quand vous dites souverainiste, il y a des champs de compétences dont l'Europe ne devrait pas s'occuper.
Rachida Dati, tête de liste aux européennes pour LR, ça vous dit?
Non, on m'a déjà proposé, j'ai pas accepté d'être tête de liste.
On vous a proposé?
Oui, on en a parlé avec Laurent Wauquiez.
Et vous avez dit non?
Non, parce que si vous voulez...
Vous voulez vous réserver pour les municipales à
parce
Paris?
Parce que je suis sur un double mandat, donc moi je ne veux pas... là pour le coup, je suis transparente, comme j'ai toujours été dans les élections, donc je vais pas être tête de liste pour dire, attendez, excuse-moi, je tire la liste nationale. Ça aurait été une liste régionale, ça aurait été différent. Mais là, ça n'est pas le cas.
Pour vous réserver pour les municipales à Paris, vous avez dit je suis prête. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Laurent Wauquiez ?
Non, mais vous savez, quand je dis sur Paris, c'est aussi une discussion que nous avons. Vous savez que c'est assez rare pour le souligner. On a une présidente de groupe, Florence Berthoud, qui mène très bien le groupe.
Mais qui ne veut pas être candidate.
Oui. Nous avons des élus parisiens. Nous discutons. Pour une fois, on n'a pas de problème entre nous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a une dynamique qui se crée et on sera...
Vous ne répondez pas.
Non, je ne vous réponds pas parce que je vais vous dire, on sera derrière celui qui sera le plus à même
ou celle.
De gagner, ou celle, de gagner Paris.
Donc voilà. C'est pas exclu, mais vous voulez pas...
Non, moi je suis élue parisienne, je suis complètement insérée dans les... Et je m'occupe et préoccupée par les sujets parisiens, et il y en a, et donc ma voix portera autant que les autres.
La loi asile-immigration dont vous parlez, là aussi on voit une droite qui parle à plusieurs voix. Éric Ciotti dit que c'est de la gnognotte, il n'y a rien dans ce projet de loi. Christian Estrosi, à votre place hier, disait que Macron va plus loin que la droite n'a jamais été sur les propositions pour lutter contre l'immigration clandestine. Vous en pensez quoi ?
Christian Estrosi et Emmanuel Macron sont assez proches, donc je peux comprendre qu'on ne va pas y faire de la peine à son ami. Donc moi je le comprends. Voilà, ça c'est une chose. Sur la loi asile-immigration, c'est de l'ajustement technique. C'est-à-dire qu'on est en deçà... C'est quoi le but de la loi asile-immigration ? C'est un... favoriser ou en tous les cas de pouvoir régler les problèmes d'accueil et puis et aussi
mieux expulser. Mieux accueillir les réfugiés politiques, mieux expulser les réfugiés économiques.
Et ni dans l'un ni dans l'autre, dans les deux cas, ça n'est pas satisfaisant. Et c'est pas de ramener de 45 jours à 90 jours une durée de rétention qui va régler les choses. Vous savez que la moyenne européenne, c'est pas loin de 18 mois. En Allemagne, c'est 18 mois. La durée de rétention.
Donc vous trouvez qu'il n'y a rien dans ce texte ?
Et puis sur l'asile, on dit on va réduire les délais. Mais le sujet, ce n'est pas de réduire les délais, c'est de dire on n'octroie plus l'asile à des gens qui viennent de pays sûrs. Je vous prends le cas de l'Albanie. On a libéralisé les visas. Vous savez que c'est des accords qu'on fait avec les pays. On leur dit plus besoin de visa pour venir en France. Mais quand ils ont terminé le visa, ils vont demander l'asile. On devrait dire, comme fait l'Allemagne pour les Albanais, ils n'examinent pas du tout les procédures d'asile. On devrait dire, les pays sûrs, les ressortissants des pays sûrs, on n'examine pas les procédures d'asile. Je peux vous dire qu'on gagnerait en qualité et aussi en temps.
Il nous reste quelques secondes, je ne vous laisserai pas partir sans poser la question à l'ancienne garde des Sceaux que vous êtes, avec la mobilisation des avocats et des magistrats contre la réforme judiciaire. Ils dénoncent une privatisation et une désertification de la justice. Est-ce qu'ils ont raison ?
Alors, vous avez vu qu'il y a des contestations partout en France. Hein. C'est quand même la justice...
Vous croyez-vous aussi à la convergence des
luttes ? Non, mais non, ce n'est pas une convergence des luttes. Il faut arrêter avec les grands mots qui ne veulent rien dire. C'est de dire que il y a quand même des inégalités, il y a quand même une colère dans ce pays. Et sur la justice, les tribunaux sont bloqués, les audiences sont reportées, on en parle très peu.
La réforme judiciaire, elle est bonne ou pas ?
Et la réforme judiciaire, c'est quoi ? C'est d'accélérer les procédures, de favoriser les nouvelles technologies, de pouvoir juger plus rapidement, de simplifier les procédures. Voilà ce qui était demandé, ce que j'ai commencé à faire, et non sans mal. Notamment sur la réforme de la carte judiciaire, fallait la poursuivre.
Et le texte, là ?
Le texte, Madame Belloubet dit, j'ai un texte, mais ce qui est dedans, on ne va pas le faire. On va pas faire de réforme de la carte judiciaire, on va pas supprimer des tribunaux, on va pas mettre de la nouvelle technologie, et les places de prison qui devaient être construites, finalement, on n'en construit pas parce que on ne veut plus de peine d'emprisonnement.
Si, 15 000 places de prison vont être construites d'ici la fin du quinquennat.
Ils ont lancé le programme. Ils ont lancé le programme. Vous savez, la durée pour construire les places de prison, c'est très long. Les programmes de construction de places de prison ne sont toujours pas lancés.
Rachida Dati était notre invitée. Merci à vous et belle journée.
Merci à vous aussi.
Et merci à vous, Léa. Il est 7h58.